Slime, émission 1, Rideau. Quand on pense aux comédies musicales, on pense tout de suite à des films. D'animation d'abord. Les Disney ont cette réputation de toujours inclure des chansons dans ses films, et ce depuis le tout début avec Blanche-Neige. Mais on pense aussi aux films live. Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, plus récemment La La Land pour parler un peu d'outre-Atlantique. On peut également penser à des choses comme Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Mozart l'Opéra Rock, des comédies musicales sur scène qui, mine de rien, commencent à dater un petit peu. Mais on ne se doute pas forcément que la comédie musicale sur scène, c'est une gigantesque machine très prolifique avec une histoire extrêmement riche. On n'en a pas forcément conscience en France, dans le monde anglophone, c'est quelque chose d'énorme. Peut-être que vous voyez vaguement de quoi il est question lorsque l'on parle de Broadway, mais que vous ne savez pas forcément exactement à quoi cela fait référence. Dans cette émission, on va vous montrer que la comédie musicale, c'est bien plus présent dans la culture que ce qu'on peut croire aux premiers abords. Et c'est tout ce qu'on va vous montrer dans cette première émission de Slime, où, vous l'aurez compris, on parlera de comédie musicale. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, une fois par mois, sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Slime, l'émission qui ne vous apprendra paradoxalement rien sur le do-it-yourself. Je suis Gauthier et je suis bien confortablement installé dans le Grand Circle avec pour m'accompagner dans le fauteuil à ma gauche Ange. Salut Ange.
Bonjour.
De quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui ?
Je vais vous parler de Disney, de Broadway, de toutes ces petites magouilles.
Eh ben, on te retrouve juste après et dans le fauteuil à ma droite, il y a Élise. Salut.
Salut.
Et toi, de quoi est-ce que tu vas parler ?
Moi, je vais vous parler de comment la comédie musicale, elle peut passer des films à la scène, de la scène au film, toutes ces petites choses.
Eh ben, on écoutera ça en dernière partie d'émission. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale et on vous interdit de filmer. C'est parti. Donc Ange, on va commencer par toi. Tu nous parles de Disney et de Broadway.
Ouais. Alors, tout le monde connaît Disney. Vous connaissez Disney ? Je me trompe ?
Oui, plutôt. Oui.
Je connais Disney personnellement.
Bien évidemment. Mais savez-vous que la réussite d'un studio ne tient qu'à un fil et que parfois, ce fil s'appelle Broadway ? Asseyez-vous, prenez des pop-corns, je vais tout vous raconter. Broadway, Broadway, Broadway. On n'a que ce nom à la bouche et c'est normal, car tout part de Broadway. Broadway, la 42e, c'est l'avenue nord-sud la plus ancienne de Manhattan. Je ne vous parlerai pas de sa construction aujourd'hui, car il faudrait faire dans ce cas une parenthèse dans une parenthèse, et ce serait vraiment, vraiment trop long pour tout le monde. Je vais plutôt tenter de vous expliquer ce qui fait de cet endroit un lieu unique en son genre. Si vous ne le saviez pas, on connaît Broadway grâce à son foisonnement de théâtres, regroupés en un même quartier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même plus de 40 théâtres sur une même avenue. Bon, j'exagère, ils ne sont pas tous sur l'avenue. Certains sont dans les ruelles adjacentes. Alors pourquoi ? Qui a décidé qu'on irait mettre tous les théâtres de la ville dans ce quartier ? Eh bien, à la fin du 19e, il y a une petite rue, pas très loin, qui s'appelle la Tin Pan Alley, littéralement, en français, l'allée des casseroles en métal. Ça vous vend du rêve, pas vrai ? Cette rue était alimentée par le commerce des éditeurs de musique. Je ne vous parle pas évidemment de vendeurs de CD, ni de vinyle, ni de quoi que ce soit qui soit un tantinet audible. Je vous parle de livrets de partitions. Un terrain très niche, donc, car a priori c'est un domaine qui n'intéresse vraiment que les musiciens. En voyant ça, il y a un type qui va sentir un bon filon et qui va décider de construire son propre théâtre pas très loin de cette rue, se disant que ce sera ainsi plus facile de s'approvisionner en partitions. Le pas très loin, c'est à Broadway. Et le type en question, il s'appelle Oscar Hammerstein, qui sera très vite suivi par d'autres. Et peu à peu, les théâtres vont se mettre à fleurir un peu partout, le long de l'avenue. Théâtres qui vont se spécialiser dans un art encore à l'aube de son succès, la comédie musicale. Et c'est ainsi que Broadway devient un lieu culturel unique en son genre et inoubliable. Mais, quel lien avec Disney, me demanderez-vous ? J'y viens. En 1937, sort le premier long métrage d'animation estampillé Disney. C'est par la même occasion. Il nous présente la première princesse Disney, Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, ce succès international, sera un film très important pour la suite, car il va nous initier à ce que l'on va appeler la recette Broadway. Voyez ! La musique est historiquement très importante dans les médias de chez Disney. Les séries de courts-métrages, telles que les Silly Symphonies, se sont toujours vues accompagnées de leur petite rengaine de jazz, un peu répétitive certes, mais toujours là pour porter son histoire. Mais avec Blanche-Neige, c'est encore différent. Car Blanche-Neige parle, certes, mais surtout, elle chante. Elle chante ses sentiments, elle chante ses actions. Blanche-Neige est une comédienne de comédie musicale. Alors oui, c'est drôle dit comme ça, mais c'est exactement ça, la recette Broadway. Disney voit en la comédie musicale quelque chose d'inédit, quelque chose de grandiose, quelque chose que l'on pourrait peut-être mélanger au dessin animé. Ce serait du jamais vu, non ? Des chansons qui font avancer l'histoire, des numéros de danse, des performances grandioses et surtout, de vrais compositeurs de comédie musicale. Cendrillon, le film, va permettre au studio de renflouer ses caisses en 1950, après la guerre, si vous avez bien suivi. Ça va être le début d'une époque très faste qui va perdurer pendant encore 20 ans, jusqu'aux années 70, et où la musique va prendre encore plus d'espace avec des films toujours plus ambitieux, tels que Peter Pan, La Belle au bois dormant, ou bien Le Livre de la jungle. Mais le décès de Walt Disney va tout changer. Et le studio va s'endetter, et perdre peu à peu toute cette identité qu'il avait réussi à construire. La musique devient un artifice supplémentaire, un élément de mise en scène quelconque. On chante moins, ou alors même, on ne chante plus du tout. Et parallèlement à cela, à Broadway, c'est la même chose. Les années 70 sont ravageuses, et la célèbre avenue se transforme peu à peu en un quartier malfamé et très peu recommandable. C'est la crise pour tout le monde. Et tout va basculer en 1989, grâce à deux hommes, Alan Menken et Howard Ashman. Ils ont très bien compris la recette Broadway. Ils savent très bien que c'est ce qui les ramènera sur la voie du succès. Ils sont respectivement compositeurs et paroliers de comédies musicales. Et leur arrivée dans le studio va changer la donne, avec un nouveau film d'exception, La Petite Sirène. C'est un succès monumental. Ça y est, la machine est relancée et elle ne s'arrêtera plus. À la suite de ça, La Belle et la Bête recevra deux Oscars. Le Roi Lion deviendra le plus gros succès au box-office de l'année 1994. Mulan, Pocahontas, Tarzan... Et ensuite, on retrouvera une période, disons, de flou artistique à la fin des années 90, où le studio va se concentrer sur le fait de plutôt sortir des suites à ses précédents succès. Ce n'est pas le plus glorieux, à mon avis, mais c'est notable. Enfin bon, ça va durer quelques années, mais il y a tout de même un film qui va relancer l'envie de faire de la bonne vieille comédie musicale. Et je le sais, vous le savez, nous le savons tous. Je parle évidemment de La Reine des Neiges. Et je ne pense pas avoir besoin de développer sur son succès, ou sur ses chansons, ou sur quoi que ce soit. L'histoire s'écrit d'elle-même. Quand on y pense, tout est logique. Tout était sous nos yeux depuis le début. Les chansons sont devenues le point central. C'est ça qui fonctionne. C'est ça qui rend ces films uniques. Le mélange parfait, le meilleur des deux mondes, qui s'adresse à tous, les enfants, les adultes, les fans de comédie musicale et ceux qui la détestent. Et c'est finalement, selon moi, un média qui a permis de démocratiser un art à l'origine très niche. La preuve, dans les plus gros succès de Broadway, on retrouve littéralement Le Roi Lion et La Reine des Neiges, donc originellement des films qui, forts de leur succès, se sont retrouvés sur la scène. Tout n'est qu'un grand recommencement, un serpent qui se mord continuellement la queue. Le grand serpent de la comédie musicale qui se glisse parmi nous, nous saisit, nous mord et nous transforme en fans de comédie musicale. Enfin bon. La conclusion. Disney a trouvé une super recette avec Broadway, s'en est allègrement emparé et a basé tous ses succès dessus. Et dès que le studio a tenté de faire autre chose, il a failli tout simplement couler. Je ne ferai pas d'analyse là-dessus, je me contenterai de dire que la comédie musicale n'a pas tant de haters que ça.
Merci beaucoup Ange pour toute cette présentation, cette historique de Disney et Broadway. Est-ce que tu sais aujourd'hui, qu'en est-il de ce lien entre Disney et Broadway ?
Ce lien entre Disney et Broadway ? Eh bien écoute, mon cher Gauthier, je pense que le spectacle qui tourne le plus à Broadway en ce moment, c'est vraiment Le Roi Lion. Ouais. Et c'est à peu près, je pense, la comédie musicale en France qui fait le plus d'entrées, à mes yeux.
Oui, en France, parce que Le Roi Lion, ça tourne au théâtre Mogador.
Ouais.
Depuis
bien longtemps. Et puis aussi, il y a tout ce truc sur les sorties récentes de Disney. Enfin, récentes, je pense à Encanto, à Vaiana, qui sont partis chercher aussi encore des nouveaux compositeurs de Broadway. Ce cher Lin-Manuel Miranda que Gauthier affectionne tout particulièrement. Donc, en vrai, je pense que c'est encore des beaux jours devant eux.
Et on a parlé du Roi Lion qui est joué en France, qui est en vrai une des rares comédies musicales qui dure en France, dans le même théâtre, qui a un modèle un peu à l'anglo-saxonne. Comment ça se fait qu'on n'ait pas plus de choses comme ça qui ressemblent à ça avec Le Roi Lion, d'autres Disney ou d'autres comédies musicales importées ?
Eh ben, je pense que j'ai une théorie là-dessus. Ouh. Je pense que la comédie musicale, c'est quelque chose de très, encore une fois, de très niche, de très nerdy. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les aficionados qui aiment la comédie musicale. Les gens normaux, ça les saoule un petit peu. Ils sont là, oh, encore
des mortels.
Encore, Mamma Mia, mais c'est bon. Mais Disney, c'est autre chose, parce que Disney, il y a un lien avec l'enfance. Je ne sais pas quels étaient vos films Disney préférés de quand vous étiez enfant. Moi, étonnamment, je n'ai pas tant d'affect que ça. Mais je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Le Roi Lion, c'est toute leur vie.
Ouais, complètement.
Et je pense ça vient de là aussi. Ils ont vraiment su ouvrir la bonne porte.
Non, mais c'est vrai, il y a un peu ce... Voilà, ça tape sur la comédie musicale, mais aussi sur le dessin animé. Forcément, ça te parle, quoi, quand t'es
petit. Sur l'enfance.
Ouais, et puis c'est des thèmes, comment dire, faciles, enfin, avec des beaux messages à la fin. Donc je pense que...
Une jolie morale.
Ouais, en plus, quand t'es parent, je pense que t'as envie de montrer un Disney, tu vois, parce que, ça dit des belles choses à la fin, du coup. Moi, je pense que ça joue aussi. Et si on n'en a pas beaucoup de comédies musicales en France, c'est peut-être déjà qu'on n'a pas forcément énormément de théâtre qui s'y prête, qu'on a une culture vraiment du théâtre, théâtre quoi, sans musique aussi.
Oui, c'est vrai aussi.
C'est dans nos racines, alors que, enfin, voilà, ça pourrait complètement changer. Mais... peut-être qu'à venir, ça se développe un peu plus. On a eu les producteurs qui sont quand même restés un petit moment.
Ouais. Qui ont même rejoué, je crois, à un moment. Ils sont arrêtés, puis ils ont repris. Il y a... justement, tu parles des producteurs. Est-ce que on peut imaginer un truc parce que les producteurs, ça reste une adaptation. Est-ce qu'on peut imaginer... Alors, il y a Starmania, mais une comédie musicale originale qui est un traitement... Comme on peut avoir un truc original à Broadway, comme on peut voir un truc original à Londres, donc l'équivalent de Broadway à Londres, c'est le West End. Est-ce qu'on pourrait voir une création originale française qui a des proportions telles, à votre avis ?
Alors, pas dans ces proportions, parce qu'en France, on n'a pas le même budget pour les comédies musicales, parce qu'on n'a pas eu le même succès retentissant, mais on a eu Molière récemment qui essaye de s'en inspirer avec des gros décors, des gros trucs. Mais c'est vraiment...
Et Mozart, l'opéra rock à l'époque.
Ouais, c'est vrai. Il y a eu quand même des petits succès à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu Molière qui est passé, qui est vraiment chouette d'ailleurs, et qui s'inspire vraiment visuellement de Broadway, contrairement à des Mozart, l'opéra rock. Je trouve qu'il s'ancre plus dans un truc très français, tu vois, dans comment on a envie de voir un spectacle à la française. Molière, j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a eu des super chorés et des trucs qui peuvent manquer des fois dans les comédies musicales françaises, à mon sens. Mais malgré tout, ça reste pas la même ampleur, et je pense que c'est pas pour tout de suite, mais...
On n'a pas d'équivalent de Broadway, ni de West End, ni de quoi que ce soit, et je pense que ça joue, en fait... Historiquement, c'est pas ancré dans nos racines. Comme disait Élise, on a beaucoup plus cette culture du théâtre et aussi de l'opérette qui pourrait être ce qui s'approche un petit peu de la comédie musicale. Mais quand vous comparez une opérette et Hamilton, ça n'a effectivement rien à voir.
C'est la même chose, c'est une photo, c'est pareil. Non, mais en plus, c'est fou parce que le vaudeville de base, c'est ce qui a donné naissance à la comédie musicale. Ouais. Et c'est un truc qui est exporté depuis la France et depuis l'Europe, mais on n'a pas du tout eu le retour du boomerang avec la comédie musicale. Mais
en fait, ça a pris deux chemins complètement différents.
Complètement.
Et c'est cool aussi, ça, c'est très diversifié comme ça, c'est deux manières d'interpréter la chose. Mais c'est vrai que du coup, c'est un truc qui manque un peu, selon moi. Je pense que ce serait pas rentable non plus. Hormis les Disney, c'est pas assez rentable de faire de si grosses productions et d'injecter autant d'argent là-dedans.
Ouais, mais en fait, c'est un truc auquel les Français penseront pas, je pense, de dire « Tiens, je vais aller voir une comédie musicale. » Alors que tu croises plein de gens, d'adultes, qui sont fans de comédie musicale quand tu vas à Londres et tout. C'est plus simple, quoi.
Il suffit de se balader dans le métro à Londres. Les trois quarts des affiches qu'on a en publicité, c'est des pubs pour des comédies musicales. Mais je crois que le modèle économique aussi des théâtres est différent entre Paris et Londres et les États-Unis. Où je crois que j'avais vu quelque chose là-dessus, que à Londres, c'était plus voulu de rentabiliser un spectacle sur la durée en l'installant dans un théâtre. Et alors qu'à Paris, il faut vraiment avoir une rentabilité tout de suite, il faut que ce soit complet tous les soirs.
C'est pour ça qu'on a sur des courtes périodes, en fait, c'est pour inciter les gens à venir maintenant.
C'est ça. Non, en tout cas, merci Ange pour toute cette histoire.
Avec plaisir.
On va écouter une musique. Juste tout de suite, qu'est-ce que tu nous as préparé ?
Je vous ai préparé... qu'est-ce que je vous ai préparé ? Je vous ai préparé un extrait de La Petite Sirène. Partir là-bas. J'avais plus mon nom. Oh là là.
J'ai failli te souffler. Hein.
Oh, on écoute tout de suite Partir là-bas de La Petite Sirène dans Slime sur Radio Campus Paris. Tous ces secrets
regarder. Ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Vois ces trésors, vois ces merveilles, toutes ces richesses qui brillent comme des soleils. En voyant ça, tu te dis, oui, c'est un paradis. J'ai des gadgets, des trucs chocs, des trucs chouettes. J'ai des quicks et des quacks à gogo. Tu veux un tir papa? J'en ai des tas. Mais tout ça m'indiffère et m'ennuie. Moi je voudrais parcourir le monde. Moi je voudrais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle? Pieds. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser, flâner le long de ces... Comment ça s'appelle? Rues. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas, je donnerais tout ce que j'ai pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent, j'en suis certaine, et leurs filles peuvent aimer sans frayeur. Fameuse sirène, fameuse humaine, j'ai fait mon choix. Je veux savoir, moi je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu? Pourquoi est-ce qu'il, quoi déjà, brûle? Un jour viendra, je partirai.
C'était Partir là-bas de la Petite Sirène.
Slime. Une fois par mois. Sur Radio Campus Paris.
Élise, je crois que tu as envie de nous parler de quelque chose en particulier.
Ouais, je suis contente que tu me poses la question, Gauthier. Je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes environ en 2011-2012. J'ai, moi, dans les environs de 10 ans. Oui, je sais, c'est bon. Bientôt au collège. Je suis devant ma télévision. Je zappe désespérément parce que je me suis lassée des Totally Spies et compagnie. Soudain, je m'arrête sur le canal 49. Ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais passer le reste de mon adolescence scotché à cette chaîne. Avec ses dizaines de séries et films musicaux, cette chaîne qui passait en boucle des épisodes de séries que je finissais par connaître par cœur, cette chaîne qui deviendra une fabrique à futures stars de la musique, du cinéma et de la comédie musicale, je vous parle évidemment de Disney Channel. Mes chers amis, est-ce que vous avez eu Disney Channel?
Oui, mais je ne regardais pas personnellement.
Moi non, car je ne possédais pas le câble.
Eh bien, vous avez raté. Pour ceux qui ne connaissent pas, Disney Channel, c'est une chaîne de télévision qui a été gratuite en France pendant un moment chez certains fournisseurs et qui nous proposait un catalogue énorme de sitcoms et de films très souvent musicaux. Bon, vous en connaissez forcément dans le lot, hein, les classiques, High School Musical, Hannah Montana, puis vraiment une tonne d'autres. Une tonne d'autres. Bon, je vais pas tous vous les citer, mais un peu quand même. Petite Beach Movie, Descendants, Section Genus, Shaky Da, Postin Ali, Camproc, Les Sorciers de Beverly Place, Bonne Chance Charlie, Jesse, Liv et Madia, Jean Kessier. Ok, je sens les regards accusateurs de mes collègues qui me supplient de me taire, je vais donc m'arrêter là. Bon, la chose folle avec Disney Channel, c'est que ça a été en vrai le point de départ de beaucoup d'artistes de maintenant. Et donc, vous connaissez sûrement hein, Selena Gomez, Miley Cyrus, Dove Cameron aussi dans la musique. Non mais si Dove Cameron... I could be a better boyfriend than him. Non ouais, c'est un peu... ouais, bon. Et Dove Cameron d'ailleurs qui a aussi joué sur scène dans des comédies musicales, notamment Sophie dans Mamma Mia.
Ah
et ouais. Elle a commencé sa carrière en jouant le rôle principal dans Liv et Maddie, où a joué Liv et Maddie, voilà, les deux. Et les films Descendants aussi. Bon, dans la même lignée, on a Ryan McCartan, qui était le premier à jouer JD dans Heathers sur scène, qui jouait lui aussi dans Liv & Maddie, le beau gosse sportif de l'école, voilà. Et en vrai, je trouve que ça prouve à quel point Disney Channel, ça a été abreuvé de cet esprit Broadway, un peu comme Disney, quoi. Toujours ce besoin de musique, toujours ces histoires qui traitent de talent, de show business, de travail acharné. Et puis toujours des histoires d'amour impossibles, mais en fait un peu possibles quand même, parce que l'amour gagne toujours après tout. C'était un produit de télévision tellement Broadway qu'une fois sorti de la machine Disney, ces acteurs, pour beaucoup, se sont tournés vers la scène. Même Sabrina Carpenter nous vient de Disney Channel, avec la série Le Monde de Riley, dans lequel elle jouait quand elle avait 15 ans, à peine. Et aujourd'hui, du haut de ses 25 ans, elle a envahi nos playlists avec Please, 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 Espresso, et elle a même été la première partie de Taylor Swift durant le Eras Tour. Donc je vous dis, c'est pas n'importe qui sort de chez Disney Channel. Puis aussi, certains ne le savent même pas, mais vraiment l'actrice la plus en vogue de ces dernières années, elle vient aussi de Disney Channel. Et oui, si vous n'étiez pas au courant, l'incontournable mademoiselle Zendaya, elle a commencé dans une sitcom qui s'appelle Shake It Up, en jouant un perso qui s'appelait Rocky, une lycéenne normale le jour, mais qui devient danseuse le soir, en quête de devenir une professionnelle avec sa meilleure copine Sissi, le tout accompagné de super tenues Y2K à paillettes assez questionnables et de musique un peu trop autotunée à mon goût. Bon d'accord, c'était trop bien. C'était ma série préférée. Non franchement, je ratais pas un épisode. Donc maintenant, je veux entendre personne dire qu'il est un vrai fan de Zendaya s'il connaît pas le générique de Shake It Up par cœur. Ok, c'est bon. Et en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve ça assez dingue que Disney Channel soit arrivé en France et surtout, il soit resté. Parce que c'est vrai, quoi, c'est une chaîne pour ados hyper américaine, très surconsommation, très très surconsommation, les mêmes épisodes en boucle, tout le temps. Surtout Jessie, je sais pas pourquoi, Jessie en boucle. Très extravagante aussi, mais surtout, c'est une chaîne qui est arrivée avec la culture américaine du musical, qu'on n'a pas du tout en France. C'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup de séries musicales avec limite une chanson par épisode, dont d'ailleurs, justement, beaucoup traitaient de la vie d'artiste, cette envie de devenir une star, le tout toujours soupçonné de drama amoureux, mais interminable. Et en vrai, moi je suis hyper contente d'avoir pu grandir avec ces séries sur mon petit écran. Déjà parce que ça m'a bien divertie, parce que oh là là, quand Austin Alice s'est enfin embrassé, moi je me suis sentie trop contente parce que c'est pas trop tôt. Vraiment, c'était long. Mais surtout, je pense que me construire avec ça, moi ça m'a appris à être réceptive à toute cette dimension d'histoire musicale. Et je pense que mine de rien, ça m'a amenée à être la folle de la comédie musicale que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'était pour le meilleur ou pour le pire? Moi, je dirais le meilleur. Mes proches diront le pire. Mais en fait, c'est vrai qu'on était noyés dans les sitcoms. Il y en avait des millions et tout était différent, mais très similaire quand même.
Il y a un style Disney Channel.
Ouais, complètement. Toujours avec ces tenues, les tenues vraiment très... En tout cas, 1000 superpositions de fringues avec les cheveux, un peu avec le bon brushing à l'américaine. Toujours des jeunes filles en personnage principal. C'est vrai ça, tiens, je viens de m'en rendre compte, mais je crois que je connais pas une série Disney Channel avec un mec.
C'est de la même manière que la plupart des Disney qui ont marché, c'est essentiellement des films avec des princesses.
C'est vrai.
Il y a quand même un public assez visé. On va dire que les princesses, ça s'adresse plus aux très jeunes enfants, ou aux jeunes enfants, ou aux enfants, à tout le monde. Et on va dire que Disney Channel, la manière dont on parle, ça s'adressait un petit peu plus aux pré-ados, aux jeunes adolescents, quoi.
Non, c'est vrai, t'as raison.
C'est une vraie continuité.
Ouais, complètement vrai, parce qu'on avait toujours ces filles un peu qui voulaient devenir cool, tu vois, ces filles qui sont un peu comme les autres, mais en fait, au fond, j'ai quelque chose de spécial.
Ouais, c'est ça.
Tu vois, c'était toujours un peu ça. C'est vrai qu'il y a toujours ce truc où t'es là, moi, tu sais, tu trouves ça un peu cool. Tu vois une fille qui réussit, qui avance, tu vois, qui a un peu son ascension, c'était toujours un peu ça, tu vois. Au début, c'est un peu genre, je rentre pas dans le moule, j'y arrive pas, ma vie est si dure. Et puis au final, tu vois, c'est toujours ce truc de d'un coup, mais en fait, je suis tellement forte. Et puis, je pense que ça parlait à beaucoup de petites filles, quoi, peut-être.
En tout cas, merci beaucoup, Élise. Et pour savoir si c'est pour le meilleur ou pour le pire, il faudra écouter les prochains numéros de Slime.
Slime. Une fois par mois, sur Radio Campus Paris.
Et ça va être à ma partie, à moi. Alors moi, j'ai envie de vous parler de ce que je connaissais un peu plus avant de vraiment découvrir ce qu'étaient les comédies musicales sur scène. C'était simplement les comédies musicales en film. Alors évidemment, j'avais bien vu des Disney, mais il y a aussi des films live, évidemment. Et au premier abord, on peut se dire que c'est bizarre. Encore plus qu'au théâtre, ça peut être surprenant de voir des vrais gens commencer à chanter et danser quand on est habitué à voir des films entre guillemets normaux. Le film live de comédie musicale qui a le plus fonctionné récemment et auquel tout le monde pense instantanément, c'est La La Land, réalisé par Damien Chazelle avec Emma Stone et Ryan Gosling, qui est lui-même un hommage à toute l'histoire de la comédie musicale live au cinéma. Personnellement, c'est le tout premier film de la sorte avec de vraies actrices que j'ai vues et je l'ai grandement apprécié. C'est un film qui prend beaucoup d'éléments de la comédie musicale, si bien que parfois on a l'impression que c'est un simple pastiche, mais qui arrive quand même à suffisamment les détourner, ces clichés, pour en faire une œuvre remarquable. Dans La La Land, on peut trouver des références au Parapluie de Cherbourg, aux Demoiselles de Rochefort, deux films de Jacques Demy avec des musiques de Michel Legrand, et avec notamment Catherine Deneuve dans les deux, donc ça c'est des films qui datent des années 60. Les Parapluies de Cherbourg, c'est très atypique comme film. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Je vais vous présenter un petit peu, parce que c'est très particulier. Quand on imagine une comédie musicale, on se dit que le schéma, c'est une alternance entre des scènes classiques de dialogue et des scènes de chant et de danse. Dans Les Parapluies de Cherbourg, c'est très particulier parce que l'intégralité du film est chantée. Et quand je dis tout, c'est tout. Une scène de repas, je vais te demander de passer le sel en chantant, en prenant bien soin, bien sûr, de ne pas faire rimer les deux phrases que je vais te donner. Une scène de dispute, eh bien, les deux vont se menacer en chantant.
Vous n'avez pas de monnaie ?
Non.
Vous êtes tous les mêmes, avec vos gros billets. Moins que toi, paumé, fais ton métier et fous-nous la paix. Dis donc, alors quoi ?
Oui, ça va, laisse tomber.
Alors, pour ma part, je sais pas ce que vous avez pensé de cet extrait.
J'ai adoré.
Et bah, imaginez ça sur 1h40.
Vous êtes tous les mêmes.
Ça, c'est trop mal. Alors pour ma part, ce genre de dialogue-là, c'est pas très engageant. Et pendant tout le film, j'avais quand même un petit malaise, un peu du mal à rentrer dedans. Parce que le problème, à mon sens, c'est que c'est pas écrit comme des chansons. C'est juste des dialogues chantés. Et perso, j'ai du mal à retenir une chanson qui a une mélodie qui varie entre 2-3 notes, je suis gentil, avec des paroles pas du tout mémorables. Non, je ne pense pas que je vais avoir envie de porter un t-shirt avec la phrase « Tu vérifieras l'allumage de la Mercedes de monsieur !» Il y a quand même dans le film une chanson qui est pour le coup une vraie chanson et qui est un peu plus mémorable, même si il n'y a pas non plus tant de rimes, mais bon, au moins je m'en souviens toujours, 3-4 ans après avoir vu le film. Par contre, je pense que si Link the Sun voyait le film, il serait furibard.
Tu sais bien que ce n'est pas possible.
Je ne te quitterai
mon amour,
pas.
Il faudra pourtant que je parte. Que moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi, tu m'attendras.
Toutes ces choses-là font donc des Parapluies de Cherbourg un film avec une ambiance assez particulière. Et bien que ce soit pas forcément des points que j'ai appréciés, là j'ai vraiment dit que des choses négatives sur le film, j'ai l'impression. Mais quand j'ai découvert le film, j'étais vraiment pas assez perplexe. Et ben malgré tout, j'y repense souvent, et bah ce matin, j'ai revu la scène finale, ça ne m'a pas empêché d'être ému. Donc comme quoi, malgré les dialogues chantés un peu bizarres. Ensuite, il y a eu Les Demoiselles de Rochefort, qui est sorti 3 ans plus tard, et là, on trouve une formule plus classique, des dialogues normaux, des scènes de chant et de danse. Et vous voyez, malgré tout ce que je viens de vous dire sur les Parapluies de Cherbourg, bah, il se trouve qu'au final, bah, c'est celui des deux qui m'est le plus resté en tête par son atypie. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. J'ai dans ma tête une distinction très clair entre comédie musicale et film musical. Personnellement, pour qu'un film soit qualifié de comédie musicale, je considère que les chansons et le numéro doivent être extra-diégétiques, ça veut dire que les personnages parlent normalement et se mettent à chanter, à danser un peu par surprise et que ça lance un numéro, mais pour moi, c'est pas vraiment ce qui se passe dans l'histoire du film. Les personnages ne chantent pas et ne dansent pas vraiment. Moi, je trouve ça naturel qu'ils le fassent dans le film. Je ne considère pas forcément un film où il y a des chansons qui existent dans la narration comme une comédie musicale. Exemple bête, mais Les Choristes, oui, ça chante, mais je ne considère absolument pas ça comme une comédie musicale, même si j'adorerais voir Gérard Jugnot sur une chorégraphie d'Hamilton. Alors, je me demandais ce que vous en pensiez. Est-ce que pour vous aussi, il y a une distinction entre comédie musicale et film musical ?
Pour moi, un film musical, c'est un truc dérivé de la comédie musicale. Ouais, je suppose que c'est là où je ferai la distinction. Mais c'est vrai que les trucs où, par exemple, c'est des musiques qui existent dans l'histoire, voilà, les gens sont sur scène et ils chantent des musiques, est-ce qu'on considère ça vraiment comme une comédie musicale ? Mais en même temps, Chicago, le film, elles sont sur scène et elles chantent, et c'est pourtant bien une comédie musicale. C'est un peu compliqué, je dirais.
Moi, je pense que dans la comédie musicale, la danse est très importante.
Ouais.
Et d'ailleurs, je trouve que c'est des choses qui manquent en France, et peut-être que c'est de là que vient la tendance en France à faire plutôt du théâtre musical plutôt que de la comédie musicale. Peut-être qu'on est très mauvais danseurs en France, je ne sais pas.
Un petit peu.
Je pense que, comme tu disais, pour reprendre l'exemple des Choristes, je pense que typiquement c'est un bon exemple de film musical, mais qui ne fait ce n'est pas de la comédie musicale. On n'a pas vocation à faire du grandiose, du spectaculaire. On n'est pas en train de présenter des numéros. En fait, je pense que ouais, c'est ça. Je pense que la comédie musicale, il faut qu'il y ait des numéros, que ce soit filmé ou non.
Je suis assez d'accord. Mais je pense que tu vois, il faut qu'il y ait cette ambiance de là, ça a la saveur d'un numéro.
Ouais, et puis il y a des codes dans la comédie musicale. Il y a, je sais pas, la I Want Song par exemple, qui est quand même quelque chose d'assez iconique, où c'est le personnage, l'un des personnages principaux qui va venir, qui va exprimer ses souhaits, pourquoi il est là dans cette histoire à ce moment précis, qu'est-ce qu'il veut faire. Ça, c'est un truc très particulier qui se retrouve dans la comédie musicale. Et pour faire justement le parallèle avec Disney tout à l'heure, c'est des choses que Disney a repris.
Ouais, complètement. Mm.
Et il y en a plein comme ça. Il y a le Showstopper qui est censé être le numéro grandiose, monumental, qui est censé redonner de l'énergie à tout le monde pour leur dire « Hey, restez jusqu'à la fin, notre spectacle est super !» je pense que c'est des codes, enfin, c'est mon avis, hein, mais je pense que c'est des codes dont on ne peut pas se défaire en comédie musicale.
Et on a du mal à faire des comédies musicales pures en France, mais des films musicaux, des films de comédie musicale française, à part Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne, ils sont où ?
Bah, c'est une bonne question. Je me demande bien où ils sont.
Ils sont très loin du budget.
les films musicaux, on en a beaucoup, mais les films de comédie musicale, déjà les vraies comédies musicales, alors si je peux être un peu tatillonne, c'est vrai qu'en France, déjà, on ne chante pas en dansant,
ouais,
en comédie musicale. Et on est plutôt sur des je me pose devant la scène, bonjour, je chante et les gens dansent à côté de moi. Et moi déjà, je vais être encore une fois un petit peu puriste, mais bon, c'est limite.
C'est pas tout à fait de la comédie musicale. Quand les chanteurs chantent, les danseurs dansent et les comédiens jouent. Quand il y a cette séparation, c'est vrai qu'il y a pas ce truc un peu triple menace comme ça.
En fait, il y a le truc bête de base que la comédie musicale, c'est lier le théâtre, la musique et la danse, quoi. Le chant et la danse. Ouais.
Et pour reprendre l'exemple des choristes, comme tu disais justement, dans les choristes, la musique, elle est digitique. C'est-à-dire que c'est les comédiens qui chantent parce qu'ils sont en train de faire une chorale, donc forcément qu'ils vont chanter. Mais c'est pas des chansons qui ont pour but de faire avancer l'histoire. Ouais. Et je pense que, comme Élise disait, c'est un bon point de distinction entre juste un film qui utilise de la musique et une vraie comédie musicale.
Mais c'est pas le même public aussi nécessairement qui est visé, et c'est pas le même média, quoi. Du coup, c'est vrai qu'il y a des trucs où il faut adapter et on peut pas s'en passer. Et des fois, bah, c'est raté, ça marche pas.
Mais c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois.
Voilà. Ouais, c'est ça. Écoutez, merci beaucoup. Pour conclure cette partie, on va écouter un extrait de La La Land, qui est le plus gros film comédie musicale récent. On va écouter Start a Fire, et c'est rigolo parce que c'est la seule chanson qui est, on parlait de ça, la seule chanson du film qui est intradiégétique. Donc on va écouter ça, Start a Fire de La La Land avec John Legend.
I don't know if it's the beat or something's taking over me, and I just know I feel so good tonight. I don't know what your name is, but I like it. I've been thinking about some things I want to try. So good tonight. So good. I just know I feel so good.
know I feel so good tonight. Oh, I just know I feel so good tonight.
C'était Start a Fire, issu de La La Land.
Slime, une fois par mois, sur Radio Campus Paris.
Et tout de suite, on retrouve Élise. De quoi est-ce que tu vas nous parler, Élise ?
Oui, bonjour, c'est moi, Élise, la folle de Disney Channel. Alors, nous n'avons fait que parler de films actuellement. Mais, justement, ne vous en faites pas, je viens à votre rescousse. Puisqu'il est enfin l'heure de parler de comment tout ça se retransmet sur scène. Évidemment, vous pensez bien que quand un film a du succès, on en fait une comédie musicale, et même inversement, quand une comédie musicale a du succès, on en fait un film parce qu'on adore l'argent. Merveilleux. Je pense notamment à notre chère Mamma Mia, par exemple, qui était d'abord une comédie musicale, dont on a fait un film qui lui-même a renforcé le succès de la comédie musicale. Parce que oui, même sur scène, c'est un immense carton international qui s'est même joué en France en 2023. Et d'ailleurs, Mamma Mia, c'est 4 milliards de dollars de recettes dans le monde. Voilà. Le Roi Lion aussi est pas mal, par exemple, puisque c'est 120 millions de spectateurs. Ouais, une vraie machine à bénéfice, tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit fun fact, mais tous ces gros succès de comédies musicales qui tournent à l'international, pour des questions de droit, c'est souvent des purs copier-coller les uns des autres. Costumes, décors, chorégraphies, dialogues, lumière, tout. Donc, peu importe où vous irez le voir, que ce soit en France ou en Chine, hormis évidemment la langue, si vous réfléchissez 2 minutes, ça sera la même chose. Et ça, c'est dû au fait que les ayants droit, souvent des Américains, supervisent tout, même les castings, et ils ont un peu des délégations qu'ils envoient pour surveiller que tout est conforme. Sinon, moi, je viens vous parler un peu de la passation entre comédie musicale et film. Comment on fait le pont entre deux médias si différents ? D'un côté, on trouve l'héritage du théâtre avec un jeu grand, une voix qui porte, etc. Parce que bah, face à des salles remplies, il faut bien se faire comprendre. Et de l'autre, on a la face caméra, beaucoup plus intimiste, un jeu plus dans le détail, dans les micro-expressions. Donc par nature, c'est quand même assez opposé. Et donc bah, la passation, elle est jamais très très évidente. Que ça soit du musical au film ou inversement, il y a toujours des choix à faire en termes de mise en scène. Et en général, c'est soit excellent, soit une dégringolade totale. Par exemple, le passage de la comédie musicale vers le film. Souvent, ça marche bien avec des histoires un peu rigolotes et assez simples parce que ça permet de pouvoir rester fidèle à la comédie musicale, assez simplement. Mamma Mia, comme on a pu en parler, tout ce côté été, amour, histoire mère-fille, une jeune fille qui cherche à trouver son père, le tout saupoudré des musiques de ABBA, et bah ça n'a pas eu trop de soucis à se retranscrire sur les écrans. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui a fait que c'est un film et un musical avec autant de succès. On pourrait aussi mentionner Moulin Rouge dans l'autre sens, du film vers le musical. Vous connaissez peut-être ce film musical de 2001, c'est un jukebox musical. Donc c'est-à-dire que ça reprend des chansons qui existent déjà, comme Your Song de Elton John ou Roxanne de The Police, et qui s'en servent pour raconter une histoire tout à fait différente. Ici, c'est une histoire d'amour impossible entre Christian, un jeune bohème qui arrive à Paris, et Satine, une danseuse du Moulin Rouge en faillite, qui se voit contrainte à vendre son corps pour essayer d'attirer des investisseurs. Et bref, donc tout ça a eu droit à une adaptation scénique en Broadway en 2019, avec Aaron Paul dans le rôle de Christian. Et ça a très bien marché. Et il y a un peu eu une remise au goût du jour, vous voyez, avec des nouvelles chansons plus récentes, comme Chandelier de Sia, Rolling in the Deep, ou Bad Romance de Lady Gaga, rien que ça. Un gros, 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 gros budget décor et des super chorégraphies. Ça a réussi à garder ce côté un peu opulent qu'on a dans le film, mais sur scène. Tant qu'on parle de franc succès, comment ne pas mentionner le Roi Lion ? Vous l'avez peut-être vous-même déjà vu à Paris, puisqu'il squatte le théâtre Mogador depuis plus de 3 ans. Et franchement, autant le film me fait vraiment ni chaud ni froid, autant là, waouh. Je suis allée le voir avec ma mère, qui a pleuré au tableau d'ouverture parce que c'est beau. Et pour le coup, là, en termes de parti pris d'adaptation, c'est fort. On a eu des gros choix. Vous le savez sûrement, parce que le Roi Lion, c'est des animaux, quoi. Des lions, notamment. Et puis les comédiens sur scène, en général, c'est souvent des humains. Et bien, la metteuse en scène, Gilles Témort, elle a décidé de résoudre ce souci en utilisant des marionnettes. Et je ne vous parle pas de petites chaussettes, hein, mais bien de costumes immenses, à la limite de l'exosquelette, parfois. Et bah, le tout, en fait, ça trouve un équilibre où à la fois on voit ce personnage en marionnette et à la fois on voit aussi le comédien derrière, il n'est pas caché du tout. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment réussi. Il y a une vraie volonté aussi de mettre à l'honneur les diverses cultures africaines, la tradition orale. Et je pense que c'est pour ça que Le Royaume sur scène, bah, c'est un succès qui est aussi immense et ça s'explique largement. Et du coup, bah, face à toutes ces réussites, parce que je vous parle de réussite, il n'y a pas que ça. Beaucoup se mettent à vouloir exploiter des œuvres à succès existantes, que ce soit du musical vers le film ou du film vers la scène. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il commence à y avoir vraiment une surcouche de médias d'adaptation. Par exemple, typique, Mathilda, qui de base, c'est un livre de 88, qui a eu droit à un film inspiré du livre en 96, qui a eu droit ensuite à une comédie musicale inspirée du film inspiré du livre en 2010, qui elle-même a eu le droit à, une, à un film inspiré de la comédie musicale inspirée du film inspiré du livre en 2022. Ça fait beaucoup, mais c'est vraiment bien pour le coup. Si... Ensuite, utiliser une œuvre connue ne suffit plus pour s'assurer un succès et essayer d'attirer des gens à regarder ces maudits films musicaux. On se repose ensuite sur le casting et les stars qu'on pourrait rallier à notre cause. Exemple simple de Greta Schumann avec Hugh Jackman, Sweeney Todd avec Johnny Depp, Into the Woods avec Meryl Streep et James Corden, Wicked qui arrive bientôt avec Ariana Grande, The Prom, que j'aime particulièrement, avec James Corden et Meryl Streep. Le retour de Mary Poppins avec Meryl Streep. Non, par contre, ça suffit. Les casteurs, faut avoir un peu d'inventivité, là. James Corden, Meryl Streep, James Corden, c'est bon.
Mais elle est super.
Écoute, Ange, moi, je pense qu'on va inventer un nouveau jeu à boire. À force, on va écrire sur une roue tous les noms des films musicaux qu'on connaît. On tourne la roue. Si ça tombe sur James Corden ou Meryl Streep, on boit. S'il y a les deux, c'est 4 shots. Et normalement, 4-5 tours de roue, on est au sol. A priori. Et bon, si on commence vraiment à être à court pour les techniques de marketing pour vendre vos films musicaux, on en a une nouvelle qui arrive sur le marché là depuis l'année dernière, c'est ne pas dire que c'est une comédie musicale. Voilà. On a eu récemment le cas avec Wonka en 2023, en misant sur l'univers culte de Charlie la chocolaterie et le succès de Timothée Chalamet. Ou pareillement avec Mean Girls, Lolita malgré moi, en français, film culte des années 2000, dont le film musical a été vendu comme un remake, alors que pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas quoi. C'est juste une adaptation de la comédie musicale qui s'est jouée sur scène suite au premier film. Et là, bah, après, on se retrouve dans une prise d'otage quoi. Avec des gens qui arrivent en salle et qui s'attendent pas du tout à entendre des gens chanter et qui sont coincés là pendant 2 heures à souffler du nez à chaque début de chanson. Et franchement, je trouve ça dommage parce qu'en faisant ça, bah moi, je suis vraiment pas sûre que ça fasse grimper l'estime de la comédie musicale pour les gens, quoi. Surtout en France où c'est quelque chose qui a encore du mal à passer. Alors oui, ça fait des entrées, mais à quel prix ? À quel prix, mes amis ? Nous, on passe pour quoi après, les fans de comédie musicale ? Des gens qui sont prêts à vous kidnapper pendant 1 heure pour vous parler de comédie musicale ? On ferait jamais ça ! C'est pas vrai ! Mais bon. À mon sens, cette erreur de marketing, c'est pas la seule erreur qu'a fait Mean Girls. Et justement, mes chers amis de Slime, j'aimerais en discuter un peu avec vous. Vous pensez quoi des adaptations de Brodo au cinéma ? On a été gâtés cette année, ces dernières années, on en a eu beaucoup. Des chouettes, Mathilda, comme je vous en ai parlé. Des moins chouettes, comme dirait Van Hensen, ou l'affreux Cat. Et puis des mitigés, comme notre dernier en date, Mean Girls. À votre avis, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui fait grincer des dents ? Pourquoi ça peut être bien et des fois non, quoi ?
En vrai, c'est difficile de trouver le bon équilibre entre... Comment dire ? Rester fidèle à l'original, faire honneur à la comédie musicale de base, donc trouver des gens qui savent chanter, qui sont talentueux, mais qui ne sont pas forcément connus du grand public, sauf exception, et ensuite trouver des personnalités, on va dire, consensuelles, qui vont fédérer tout le monde, sur lequel tout le monde va se mettre d'accord. Et le bon exemple là-dessus, je pense que c'est Wicked, parce qu'ils ont choisi de prendre Ariana Grande. Et évidemment qu'elle chante bien, évidemment que tout le monde l'adore, donc évidemment que ça va marcher à mes yeux.
Ouais, et puis en plus, je pense que pour le coup, tu vois, en Gorilla, ça allait apprécier quoi, mais ça marchait pas pour Katie, pour moi. Le visuel était bon, le jeu était bon, mais il y avait pas le chant. Autant Ariana Grande, je trouve que c'est un très très bon fit pour Glinda quoi, elle a tout ce côté petite fille parfaite quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Qui peut très bien marcher, je pense.
Il y a aussi le truc de. Un film, ça coûte de l'argent à faire, ça coûte beaucoup d'argent à faire. Hamilton. Encore une fois, a fait le choix de faire une captation avec beaucoup, quand même beaucoup de budget. C'est pas juste une captation avec 3 caméras. Il y a vraiment énormément de caméras, des caméras sur scène, des plans de fou. Et en fait, ce truc-là, je pense que c'est un compromis intéressant à faire parce que ça coûte moins de cher aux productions, ça leur demande moins de préparation qu'un film, mais ça semble pas être le premier choix, parce qu'on a vu Dear Evan Hansen, qui est vraiment une catastrophe, ce film, pour moi.
Ouais, bah pour moi, dans Dear Evan Hansen, ça aurait été mieux une captation, clairement. Après, en fait, c'est pas le même public. C'est les fans de comédie musicale qui vont aller regarder les captations. Mais par exemple, pour revenir sur Dear Evan Hansen, pour moi, le problème majeur, c'est que bah, la convention théâtrale, ça ne s'applique pas au cinéma. Mmh. C'est pas possible parce que donc, Evan, le personnage principal, a été joué par Ben Platt, ça a été le premier à jouer, et c'était une super prestation, tout le monde a adoré, c'est vraiment un consensus le fait que Ben Platt, il est super. Sauf que, bah, du coup, il l'a joué sur scène à Broadway, c'est l'histoire d'un lycéen, voilà, ça parle d'un mec au lycée, et le film a été tourné bien plus tard, et du coup, bah, il a vieilli Ben Platt, mais ils ont quand même fait le choix de prendre Ben Platt. Alors autant sur scène, quelqu'un d'un peu plus vieux qui joue un personnage plus jeune, ça passe parce qu'on a la convention théâtrale qui fonctionne où tu te dis d'accord, tu prends, mais quand t'as des gros plans sur un mec qui a visiblement 30 ans,
oh, c'est terrible.
Et on te dit oui, je suis au lycée, j'ai 16 ans, t'inquiète.
C'est terrifiant.
Ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça, c'est une erreur qu'a fait Dear Evan Hansen parmi tant d'autres aussi parce qu'il y a des problèmes de mise en scène où t'essayes de mimiquer un peu, tu vois, ce qui se passe sur scène, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est comme l'inverse, en fait. Si tu prends un film et que tu as envie de mimiquer ce qui se passe dans le film, mais sur scène, ça ne fonctionnera pas parce que tu n'as pas le même angle, tu n'as pas la même vision. Du coup, ouais, je pense que c'est des problèmes de se défaire de ces conventions et d'arriver à adapter, quoi.
Ouais, je pense qu'une bonne adaptation, c'est une adaptation qui n'existe pas que pour être fidèle à une œuvre originale, mais justement qui va prendre des libertés. Pas trop non plus, parce que si elle prend trop de libertés, c'est une nouvelle œuvre. Mais ça va être... Il y a ce bon ratio à garder de... Je prends un petit peu de là, je fais un petit peu ma sauce. Et en général, si c'est trop proche de l'original, excusez-moi. En général, on s'ennuie, en fait. Et c'est quelque chose déjà qu'on retrouve quand on a des films qui sont adaptés de livres. Donc je pense que c'est applicable à la comédie musicale de la même manière. Vous voyez où je veux en venir ?
Je vois où tu veux en venir.
Je vois. Mais je pense que Mathilda était très intelligente sur ça. C'est qu'il y a beaucoup de plans très très cool.
Oui.
Beaucoup de... Enfin, vraiment, c'est très cinématique un petit peu, Mathilda. Les couleurs sont très marquées, je trouve. Enfin, et je trouve que ça a été fort en ces eaux-là parce que Mathilda, c'est quand même aussi un truc un peu... Je sais pas, c'est un peu particulier déjà de base aussi sur scène. Tu vois, c'est une ambiance, Mathilda. C'est ce truc pour enfants, mais c'est à la fois un petit peu terrifiant. Et je trouve que ça a vraiment bien marché sur... Sur le film, quoi. Mais des fois, ça fonctionne pas, quoi. Et je trouve, par exemple, dans Mean Girls, ce qui a pas trop marché, c'est avoir voulu reprendre ce truc où Katie, c'est une jeune fille qui a grandi au Kenya, et entourée des animaux, etc. Et du coup, en fait, elle essaye d'appliquer le comportement des animaux sur les humains, essayer de comprendre. Et du coup, sur scène, c'est quelque chose qu'on... Dans le film original, il y a, parce qu'on voit les choses à travers les yeux de Katie. Sur scène, il y a aussi ce truc où, pendant la chanson Apex Predator, elle voit les gens comme s'ils se comportaient comme des animaux, mais après, tu reviens au cinéma, à la comédie musicale, et tu vois des gens en train de faire les singes et les tigres autour de la fontaine à eau. Et en fait, ça ne marche pas. Le seul terme pour définir ça, c'est... cringe un peu. Alors que dans le premier film, c'est très clair que c'est à travers les yeux de Katie, je trouve, et dans la réadaptation. Et pourtant, je l'ai aimé, hein, Mean Girls.
Mean Girls, Lolita malgré moi, au cas où.
Alors là, on parle d'adaptation de film en comédie musicale. D'adaptation de comédie musicale en film. Mm-hmm. On n'a pas vraiment beaucoup parlé de l'inverse.
En général, les comédies musicales, on puise plus dedans pour faire des films, pour les donner au grand public. Que l'inverse. Après, il doit y avoir plusieurs exemples, parce que si je me creuse...
Moi j'en ai, par exemple, Retour à le futur, qui a, pour le coup, un gros succès et qui est vraiment très bien. Mais pour le coup, c'est vrai que tu connais pas Retour à le futur, bah, c'est cool parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, mais tu te dis, bon, ok. Il y a beaucoup, je pense, de trucs qui reposent sur le fait que tu connais déjà le film à l'avance. Il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de gens parler, du fait que c'est un peu, entre guillemets, la facilité... d'avoir l'adaptation d'un film ou une adaptation d'un truc qui existe déjà et que ça empêche d'un côté les nouvelles œuvres de fleurir parce que en fait c'est la sécurité, les gens ils connaissent le film, ils vont aller voir la comédie musicale.
En fait, c'est ça, c'est que ça permet d'assurer les premières entrées. Et après, si c'est de qualité, tu vas en entendre parler, c'est sûr. Ça permet d'assurer au moins un minimum de recettes. Et c'est vrai que c'est dommage parce que du coup... on peut manquer un peu parfois de ce truc-là. Aussi, on a beaucoup de jukebox qui peuvent sortir avec des musiques qu'on connaît déjà. Je pense à Anne Juliette, qui a fait un carton. C'est sympa, c'est mimi, mais c'est surtout voilà, des musiques reprises. Un jukebox musical, c'est une comédie musicale qui ne va pas avoir des compositions originales, mais bien reprendre des musiques qui existent déjà pour raconter une histoire toute nouvelle. Bah, voilà, Mamma Mia, Moulin Rouge, typiquement.
Après, elles peuvent être réarrangées selon les besoins du musical, transformées, changées de genre, etc. Mais,
complètement.
C'est des choses qui existent déjà.
Mais ouais, du coup, je pense qu'il y a un peu ce truc où on peut avoir du mal un petit peu à avancer. Après, on a eu des trucs un peu chouettes qui sont sortis récemment, qui sortent un peu du moule, en tout cas, dont on a entendu parler récemment. Je pense à Ride the Cyclone, The Notebook. Mais pareil, ça n'a pas pris une ampleur phénoménale comme peuvent l'avoir pris des Moulins Rouges immédiatement, où ça a été le feu aux poudres, quoi. À voir. J'espère qu'on sortira un peu de ce modèle qui, à mon sens, finira un moment par se fatiguer un petit peu.
Bah, merci beaucoup, Élise, pour tout ça. Merci, Ange. Tu nous as préparé quoi comme musique, dis-moi, Élise ?
Alors, je vous ai apporté mon petit péché mignon de Moulin Rouge, c'est Backstage Romance.
Et on écoute ça tout de suite sur Radio Campus Paris.
I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. Oh, I want your love and all your lover's revenge. You and me could write a bad romance. Oh, caught in a bad romance. Oh, caught in a bad romance.
C'était Backstage Romance, issu de Moulin Rouge, la comédie musicale.
C'est la fin de cette toute première émission de Slime. On vous remercie d'être resté jusqu'au bout, suffisamment longtemps pour applaudir l'orchestre. Merci Ange.
Merci beaucoup Gauthier.
Merci Élise.
Merci.
Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission. En attendant, chantez, dansez, faites de la vie un musical. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Slime. Salut.